Bien, bonjour Gilles, mon frère, les étudiants de Limoges et moi-même te remercions de nous accorder un peu de temps pour nous expliquer ce que faire un documentaire veut dire. Je rappelle que tu es l'auteur de nombreux documentaires, notamment Les Jours Heureux, La Sociale que les étudiants ont vu, mais aussi plus récemment La Ferme des Bertrands que je conseille et je recommande vivement à tous les étudiants d'aller voir. Alors, j'ai quelques questions, hein, parce que c'est très court, c'est un peu une capsule, et vraiment, on est très, très honoré de t'avoir. La première chose, c'est comment on devient documentariste? Voilà. Alors, c'est un vaste sujet, hein, je sais bien, mais voilà, comment on devient documentariste et on se lance dans l'aventure de documentaires qui finissent à l'affiche au cinéma?
Alors moi, je viens pas du tout d'une école et je viens pas non plus d'un milieu social qui était prédestiné à faire du cinéma, pas du tout. Moi, j'ai vu mon premier film quand j'avais 14 ans, peut-être au cinéma. À la maison, il n'y avait pas de livre, pas de film, pas de. Donc en fait, j'étais vraiment pas prédestiné à faire ça. Et j'ai fait un diplôme d'ingénieur en électronique, donc je faisais partie des rares enfants d'ouvriers à avoir un diplôme d'ingénieur. Et au lieu de faire l'armée à l'époque, puisque j'ai l'âge où on faisait l'armée quand on avait 18-20 ans, j'étais objecteur de conscience, donc on avait le droit de faire 2 ans dans une association ou une collectivité locale reconnue d'utilité publique. Et moi, j'ai fait dans une télé locale à l'époque et je me suis formé sur le tas. Alors comme caméraman et comme technicien dans un premier temps. Et puis après, j'ai travaillé en actualité. Et puis l'actualité, les formats courts, ça me convenait pas trop. En plus, je travaillais pour des rédactions où je sentais bien qu'on diffusait toujours le discours dominant avec peu de place pour la nuance, etc. Donc j'ai commencé à faire mes documentaires comme ça. Je me suis formé sur le tas. Et puis tout d'abord pour la télévision, sur des films de montagne, sur des films un peu sociaux, mais sans plus. Puis la télé, de plus en plus, voulait moins de moi. Et moi, je voulais de moins en moins de la télé. Donc j'ai glissé vers le cinéma. On est beaucoup plus libre quant à la forme, quant aux propos, quant au choix des intervenants. Et c'est pour ça que maintenant, bah, je travaille plus que pour le cinéma, ce qui me convient très bien. Et voilà, donc voilà rapidement le parcours.
Donc c'est en fait par réaction par rapport à ce qu'est devenu le journalisme, où on n'a plus le temps, où il faut faire des sujets
Ouais.
bateaux, etc., et que tu t'es orienté vers la forme documentaire. C'est
Oui,
ça?
et puis il y a une raison, on va dire, un petit peu politique sur effectivement je dirais la dérive des formats courts, mais il y a une raison aussi peut-être esthétique ou en tout cas de forme qui fait que je me suis aperçu que finalement les spectateurs et les gens ils sont pas forcément bêtes, on n'a pas besoin de leur donner 3 fois l'information, c'est-à-dire que faire des émissions de télé, on vous dit bah, maintenant on a Roger qui va vous dire qu'il est content d'aller travailler le matin, puis on a l'interview de Roger qui dit bah, moi tous les matins je suis content d'aller travailler, puis qu'en plus il y a le titre. Le bandeau qui dit tous les matins Roger va travailler et il est content. Moi, je pense que par l'image et par l'émotion, des fois par les silences, eh ben, on peut raconter de belles choses et toucher le spectateur plus profondément. Donc voilà, c'est aussi pour ça que quand je me suis rendu compte de ça au fil des années, je me suis dit, bon, voilà, on va faire du documentaire et puis on va pas forcément prendre le spectateur par la main, mais essayer de le toucher par les affects aussi.
Alors, on va y revenir. Une question un peu marxiste-matérialiste, parce que j'ai travaillé un peu avec Gilles Balbastre aussi. Comment on lève les fonds pour réaliser un documentaire quand on veut mettre de la qualité? C'est-à-dire quand on veut vraiment, parce que moi j'ai participé à la sociale, j'ai vu qu'il y avait une équipe, faut se déplacer, enfin ça coûte de l'argent. Donc comment on trouve les fonds pour réaliser par exemple la ferme des Bertrands là? Et je suppose que maintenant tu es connu, donc tu as pas de mal à lever les fonds.
Ouais, c'est ça. Moi,
Ouais, mais au tout début.
Alors, c'est sûr que moi, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, maintenant, comme mes films marchent plutôt bien d'une manière générale, soit ceux que je réalise ou ceux que je co-réalise avec François Ruffin, en gros, un film paye le suivant. Donc, je suis assez chanceux et on n'a pas à demander quoi que ce soit à qui que ce soit, ce qui est aussi un gage de liberté. Mais sinon, pendant au début, ma quête, c'était d'être indépendant, 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 et de produire et de distribuer en direct avec les copains, quoi. Et donc là, ben, on a à un moment donné, ben, tu parlais de la sociale, on a fonctionné par souscription. Alors maintenant, on a les cagnottes type Litchi, etc. Nous, on avait fait vraiment par les réseaux, en fait, par les mails et des gens qui précommandaient le DVD, ou alors des gens qui étaient intéressés parce qu'on avait raconté dans le film La Sociale, des mutuelles, parce qu'il y a des mutuelles qui sont vraiment encore des mutuelles de travailleurs, qui sont pas affiliés à tel ou tel groupe. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, des syndicats, des choses comme ça, et finalement, on a réussi à rassembler une cagnotte, et le budget de La Sociale, à l'époque, c'était quelque chose comme 160 000 euros. Parce qu'il y a, bon, il y a pas mal d'archives, et comme tu dis, on s'est déplacé, etc. Donc, et puis il y a du boulot quand même. Et puis quand on fait un film sur la sociale, on a plutôt tendance à payer les cotisations sociales et à payer les gens correctement. On a plutôt intérêt. Donc voilà, ça fait que mais après, avec le temps, il y a un système en France qui est quand même assez vertueux. C'est que quand on sort maintenant des films pour le cinéma, on génère ce qu'on appelle un compte de soutien auprès du CNC. Donc, c'est pas de l'argent qui vient sur le compte des producteurs, mais c'est une enveloppe qu'on peut, en fonction du nombre d'entrées, qu'on peut débloquer sur les prochains films. Donc, c'est pas de l'argent qui nous appartient, mais en fait, c'est de l'argent qu'on peut débloquer et mettre dans la. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous permet. Ben là, on fait un film sur le prochain et sur la ferme des Bertrands. On avait débloqué, je crois que ça devait être quelque chose comme 80 000 euros de fonds de soutien du CNC. Et donc, ça nous permet de grouper, on peut grouper plusieurs producteurs. On peut, là, sur la ferme des Bertrands, on avait l'aide d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, qui est une structure indépendante de la région. Et puis, ça, c'est le boulot des producteurs, c'est de rassembler de l'argent. Et puis après, on peut se mettre au boulot. Voilà.
Ok, super. Et alors maintenant, j'en viens au fond, parce que je me souviens, on a discuté près d'un bistrot à Saint-Marcel avant de tourner La Sociale. Tu étais venu à la Pitié-Salpêtrière où il y avait une réunion de médecins. Et
Oui.
en fait, ma question, c'est, en fait, le fil conducteur, c'est de ton travail, c'est évidemment ta sensibilité sociale, mais cette capacité à mettre en intrigue le quotidien, finalement. C'est le cas de la ferme des Bertrands, c'est le cas de la sociale, c'est-à-dire des choses, on se disait, bah, finalement, la sécurité sociale, c'est un truc un peu désincarné, bureaucratique pour les gens, c'est la carte
Oui,
vitale. Donc, comment on redonne de la chair à tout ça? Donc, quelles sont, selon toi, je dirais, pas les ficelles du métier, mais les recettes d'un documentaire réussi qui, justement, transforme la banalité en extraordinaire?
ouais, bah, c'est sûr que typiquement la sociale, c'est l'exemple type du truc qui, sur le papier, est chiant, quoi. Où tu te dis, je vais avoir un documentaire sur la sécurité sociale, on va avoir une succession d'experts, de chiffres, de machin, et donc là, tu te dis, bon, comment on va essayer d'intéresser les spectateurs avec ça? Donc moi, c'était mon angoisse, hein, clairement. Et tant que j'ai pas, moi, tant que j'ai pas trouvé des êtres humains pour raconter ça, je fais pas. C'est-à-dire, je suis pas quelqu'un, déjà, c'est pas que je suis pas quelqu'un que la télé ou des gens appellent en disant, tiens, on veut que tu nous fasses un documentaire tout sur le réchauffement climatique en 52 minutes. Moi, ça, je sais pas faire. Par contre, si je rencontre des gens qui me plaisent, avec qui je partage les mêmes idées, ou en tout cas qu'on ont quelque chose d'un peu barré, ou en tout cas quelque chose qui fait que ça met de la chair, là, ça commence à m'intéresser. Et c'est vrai que pour le coup, bon ben, sur la sécurité sociale, on avait besoin de témoignages, enfin d'archives, on avait besoin de témoignages très incarnés de gens qui l'avaient vécu. Puis parfois, on a besoin de gens qui sont capables de mettre de la distance et mettre de l'analyse. Et c'était dans ce cadre-là que je t'avais rencontré. Et c'est sûr que pour moi, le vrai déclenchement du film La Sociale, c'est quand j'ai rencontré Jolfred Fregonard, parce que là, ce gars-là, il était carrément improbable. J'avais fait le tour de France quasiment en disant, vous connaîtriez pas quelqu'un qui a vécu ces choses-là, qui soit capable de témoigner, et je trouvais personne, en fait. Et c'est quelqu'un de chez moi, enfin, de Haute-Savoie, de la CGT, qui me dit, mais il y a Jolfred, il vit maintenant dans le sud, mais je crois qu'il est encore en forme et tout, tu devrais l'appeler. Et donc, en fait, j'appelle ce vieux monsieur qui avait donc 95 ans à l'époque, et puis je tombe sur ce gars super jeune au téléphone, et puis donc j'y vais avec des pincettes en disant, voilà, excusez-moi de vous déranger, blablabla, tout ça. Et puis je lui dis, je suis Gilles Perret, je fais des films, et j'aimerais bien vous témoigner. Il me dit, ah, mais je vous connais très bien, j'ai acheté tous vos DVD sur Internet. Donc, bon, j'ai dit, bon, d'accord. Ça a déclenché notre rencontre, et puis on est parti dans cette histoire-là, et c'est sûr que Jolfred, il porte le film, parce que là, c'est pas l'homme qui a vu l'ours, c'est le mec qui a bâti la sécurité sociale en 46 et qui a monté les caisses, qui a traversé toute cette période-là, en plus qu'à l'analyse politique, qu'à la distance, qu'à donc c'était formidable. Puis après, une fois qu'on a cette colonne vertébrale comme ça, et ben c'est comment on suscite des situations, où on l'emmène, comment on provoque des choses, comment on raconte ça, et on s'appuie, et ben là, sur les historiens type Michel Etiévant, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, qui lui avait son sa vie a été consacrée à ressortir l'histoire d'Ambroise Croizat, qui avait été injustement noyé dans le dans le, dans dans, dans l'histoire. Et donc ben là on a du fond sur le plan historique. Et puis mais c'est vrai que ce que j'aime bien moi dans mes films, c'est de provoquer des situations, provoquer des rencontres qui potentiellement peuvent être soit explosives, soit être émotive, soit en tout cas pour mettre de l'affect, parce que c'est vrai qu'il y a un documentaire, et ça je parle pour moi, après je dis pas, je sais pas si c'est bien, pas bien, peu importe, hein, il y a plein de façons de travailler différemment, mais de façon différente, mais quand moi, si dans un film, un documentaire, il n'y a pas un peu de rire, il n'y a pas un peu de larmes, ou il n'y a pas un peu, j'estime que j'ai raté, enfin en tout cas que j'ai pas trouvé le bon moyen de capter le spectateur par les affects, et même on va dire même politiquement, si on veut amener des choses, je suis sûr que c'est pas par la dialectique chiante du militant chiant, enfin chiant, j'aime bien les militants, c'est pas la question, mais si c'est pour ressortir des formules qu'on a déjà entendues dans des manifs, qu'on a déjà entendues ben, partout, et enfin, il y a des tracts pour faire ça, et moi j'essaye, et ce que je fais aussi avec François Ruffin, on fait la chasse un peu à, dès qu'on sent que c'est de la tirade, ben on chasse quoi, parce que ça on n'a pas besoin du cinéma pour faire ça. Par contre, provoquer une situation où on se retrouve, on ne sait pas trop pourquoi, dans le bureau du ministre du
Oui, voilà,
Travail, enfin, c'est
j'allais
un
te
peu
poser la question. Et raconte un peu la scène, parce que
ça,
c'est la scène avec Rebsamen qui rentre, qui fait irruption dans son bureau au ministère du Travail, qui était le bureau d'Ambroise Croizat. Donc voilà. Et tu peux nous la raconter brièvement, peut-être?
ouais. En fait, cette scène-là, elle n'était pas prévue comme ça, mais en même temps, je sais que comme on nous donne l'autorisation d'aller au ministère du Travail avec Michel Etiévant sur les traces d'Ambroise Croizat, je me dis que potentiellement, il peut y avoir des rencontres qui peuvent mettre un peu de relief dans ce film-là, quoi. Et je vais pas te faire un film plan-plan, quoi. Et donc, en fait, on y va. Finalement, on n'avait pas l'autorisation d'aller dans le bureau. Il y a l'émotion de Michel Etiévant qui, dans le bureau, lui, c'est un peu quasiment la consécration de son travail de se
Oui.
retrouver là devant le bureau d'Ambroise Croizat. Donc il y avait une émotion par rapport à son passé, par rapport à sa mère, etc., etc. Mais en même temps, moi, dans ma tête, je me disais toujours, j'avais déjà prévenu les collègues en me disant, il peut se passer des choses, surtout on coupe pas la caméra et on verra, parce qu'on était mercredi matin et que le mercredi matin, les ministres étaient à l'Assemblée nationale, et je me suis dit, forcément, il va revenir, le ministre. Donc c'est possible qu'on le croise. Et donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Et on tombe donc sur Rebsamen, alors évidemment, on avait interdiction de lui poser des questions de la part de service com, du directeur et directrice de cabinet, etc. Et en fait, quand je lui m'adresse directement à lui, ben, il est toujours assez fier de passer devant une caméra. Et donc, il dit oui, ben, venez, rentrez. Et puis, il se passe ce qui s'est passé dans la sociale avec ce ministre du Travail, plus socialiste. Enfin, à l'époque, là, il a vu le macroniste comme, enfin, c'est la belle tendance des socialistes. Et donc en fait tout était déjà dit finalement dans cette séquence-là. Le mec il connaît pas Ambroise Croizat, il est à son bureau et qui est quand même le fondateur de la sécurité sociale quoi. Donc et puis en plus quand t'es ministre, si t'as que comme réponse en 45 il y avait le général de Gaulle, point, c'est quand même méconnaître l'histoire sociale française qui a quand même franchi un palier en 45 qui venait pas du général de Gaulle quoi. Même s'il a laissé passer les choses, mais c'est le rapport de force qui fait qu'il laisse passer les choses quoi. Donc voilà, c'est des séquences assez savoureuses. Où on rit, on est surpris, et c'est comme ça qu'aussi on met du rythme dans un film, quoi.
Voilà, je vais venir sur le montage. Et est-ce que tu as eu des retours de Rebsamen? Parce que c'était l'hilarité générale à chaque fois dans la salle. Non, il t'a
Ben
fait.
les recours, alors on m'a dit qu'il est allé le voir à Dijon et qu'il était sorti de la salle, mais moi j'y étais pas.
D'accord.
Après, c'est sûr qu'il n'est pas content, parce que ce genre de personnages qui arrivent, qui savent tout sur tout et qui sont à l'aise partout, et c'est vraiment devenu les notables politiques depuis des années, c'est sûr qu'être pris à défaut comme ça sur un sujet qu'ils devraient maîtriser, ils n'aiment pas. Mais
Sans
bon, c'est
aucune
pas grave.
culture
Je veux
sociale
dire,
et
c'est
politique, quoi. Voilà, c'est ça. Et
ça.
alors.
Je crois parce que au-delà de ça, excuse-moi, je te coupe, mais au-delà de ça, cette séquence-là qui pourrait paraître anecdotique, elle raconte tout. À mon avis, de ce que sont devenus ces notables ex-socialistes qui vivent dans le macronisme, c'est-à-dire qu'ils sont, il me prend de haut, c'est lui qui sait, qu'il est bousculé, il s'énerve, et on voit que finalement, ils n'ont pas le background politique qu'ils devraient avoir quand tu occupes cette position-là avec l'étiquette de gauche que tu as encore à l'époque, quoi. Donc, je pense que ça en dit plus qu'uniquement cette rencontre un peu surprenante dans ce bureau, quoi.
Ouais. Alors, une question, puisque c'est un master sur sciences sociales et documentaires, comment justement, donc tu dis bien qu'il faut de l'affect pour donner de la chair à des sujets qui peuvent paraître soit rebutants, comme la sécu, ou soit banal, comme, je sais pas, l'agriculture et les destins des agriculteurs. Comment tu fais pour monter un sujet, alterner expertise, parce qu'il y a Bernard Friot dans la sociale, il y a Colette Beck, il y a moi, et puis les affects. C'est cette rythmique, je dirais presque musicale, alternance entre l'expertise et l'affect, quoi.
Bah, écoute, ça faut rendre hommage à Stéphane Périllaud, le monteur avec qui je travaille, que tu connais aussi, Frédéric. Qui a cette sensibilité-là, où nous, on cherche toujours, on cherche les émotions, on cherche les choses pour justement, je parlais de rythme et de musique un petit peu, et c'est ce qu'on essaye de faire. Après, ben, le montage, c'est ça, hein, c'est qu'on essaye des choses, on essaye des assemblages, de l'ordre, et puis on se dit, non, ben, finalement, ça irait mieux avant, ça irait mieux après, mais après, ça veut dire qu'il faut aussi bien avoir travaillé en amont. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup en amont, surtout sur des films comme ça, pour avoir un maximum d'informations, et puis surtout savoir ce sur quoi les intervenants sont bons. Et ça sert à rien d'aller demander à un seul intervenante ou intervenant ou une seule intervenante tout sur la sécu. On sait que telle ou telle personne, elle est bonne sur cet angle-là. Ben, quand on va tourner, hop, on tourne et on se focalise sur ce moment-là. Et puis tant que c'est pas bon, on revient sur les questions par des biais détournés, par des choses. Donc en fait, on construit un petit peu ça comme ça, et puis après, ben, au montage, par exemple sur la sociale, la manière dont on avait travaillé, et toi, t'es vraiment, ben, tu sais comment on a travaillé, c'est qu'on avait, on a monté le film d'une manière globale, et on se dit, bon, qu'est-ce qui manque comme articulation, à quel moment on a besoin d'un point d'éclairage ou d'une mise un peu à distance ou un regard un peu analytique. Et donc, du coup, on a regardé un peu dans le film, on s'est dit, bon, là, il manque telle ou telle information, et c'est à ce moment-là qu'on a travaillé ensemble, où toi, tu as été capable de mettre en perspective un petit peu tout ce qu'on racontait avant, et du coup, ça nous fait des points de mise à distance, d'analyse, de respiration aussi, pour amener. Après, ça, c'est aussi une chance qu'on a, c'est que dans le documentaire pour le cinéma, on n'est pas contraint dans les temps de montage, pas trop. Donc, en fait, on peut se donner le temps de se dire, bon, là, on laisse dormir un petit moment, et puis on revient dessus après pour remettre un ou deux regards. Et ça, moi, j'aime bien quand on a un peu de temps comme ça. Là, par exemple, on est en montage sur un film qu'on fait avec François Ruffin. On s'est donné une pause pendant un mois et demi. Quand on revient dedans, ben, tout de suite, il y a des choses qui nous sautent à la figure en disant, non, mais ça, c'est chiant, ça, c'est, on enlève, ou au contraire, ça, on a un truc important, il faut qu'on le monte un peu plus en épingle. Et donc, voilà, il faut se donner du temps. Et puis, ouais. Mais sur la sociale, c'était un vrai bel exercice de préparation en amont, parce que plus on prépare en amont, de toute façon, plus on sera pertinent au moment du tournage et plus ce sera facile au montage. Et il ne faut pas croire que. Enfin, il y a des documentaristes qui, de temps en temps, on entend, ils tournent, ils enregistrent plein de matière, puis après, ils disent, bon, ben, on va faire le film au montage.
Ouais, c'est ça.
Moi, ça. Il y en a qui savent faire, hein. Mais alors moi, ça, tu me dis, tu me fais faire ça me terrorise, quoi. Je dis, les trucs qui partent dans tous les sens et tu te retrouves devant une montagne de rush, tu sais pas vraiment quel film tu veux faire, c'est pas ma façon de travailler, mais c'est parce que c'est peut-être ma formation d'ingénieur où j'ai besoin que ce soit un peu structuré avant, pas que ça parte dans tous les sens.
C'est ça. Mais tu évoques les films avec François Ruffin. Là, il y a moins d'expertise, c'est plus de l'affect en fait. Enfin, je pense, je veux du soleil, etc. Alors, c'est une autre façon de procéder là. C'est parce que là, on remet pas de la chair sur et de la profondeur historique comme sur la Sécu. Avec Alfred, mais là, comment on bosse sur un sujet comme ça où il s'agit à la fois de enfin de montrer la souffrance sociale, mais aussi, je dirais, la volonté d'émancipation, en tout cas, ce sentiment de révolte, sociale, quoi.
Ouais, là, pour le coup, quand on travaille tous les deux, on a cette sensibilité-là sociale et par l'image, et on travaille quasiment que sur les affects, et aussi avec le but de justement de traiter d'un thème de société, et puis d'être un petit peu comme des comme une espèce de commando qui fait que voilà, on va collecter la parole des gens sur le moment, dans une période particulière de l'histoire, et surtout donner la parole aux gens, aux gens, aux gens, et pour le coup, éviter à la fois les experts et à la fois la tirade politique, et montrer à quel point les gens, quand on leur donne la parole, sont suffisamment intelligents déjà pour exprimer leurs ressentis, et sont, oui, beaucoup moins bête que ce qu'on laisse croire. Et là aussi, enfin, pas malheureusement, mais dans ce type de film, puisqu'on est un peu dans l'instantané, c'est un peu réfléchi quand même en amont. Alors, pas, Jeu du soleil, pas beaucoup, parce qu'on part vraiment sur cet instant des gilets jaunes. Sur Debout les femmes, c'était beaucoup plus construit parce qu'il y avait une enquête parlementaire, une mission d'information parlementaire, etc. Mais là, par contre, là, on fait vraiment la chasse aux phrases toutes faites aussi. Parce que les monsieur et madame dont on fait partie, on a tendance, quand on est interviewé, à faire les perroquets de ce qu'on a entendu à la télé et de rentrer dans le moule de ce dont les journalistes attendent de nous. Si
C'est
tu es
ça.
ouvrier, tu dis que tu pars tant parce que c'est pas normal, voilà. Et puis tu commences à reprendre la dialectique que tu as entendue au journal télévisé. Et là, tu rentres dans un rôle. Donc nous, quand on tourne, c'est la chasse à ça. Et dès qu'il y a du jeu, dès qu'il y a du ça sonne faux, même si ça peut être attrayant, parce que de temps en temps, tu peux avoir des tirades qui sont très bien et tout, mais tu sens que c'est pas sa chair, c'est pas lui, c'est pas elle. Et donc, du coup, on fait systématiquement la chasse à ça. Parce qu'aussi, on pense que le spectateur, il sera plus touché par un témoignage qui vient du fond du cœur, qui vient du fond d'une révolte ou d'un truc comme ça, que parce que, il a l'impression, que s'il a l'impression d'être devant le journal de France 2, où la personne a été prise un peu au dépourvu, et puis que ben, le premier réflexe qui lui vient dans sa réponse, c'est de copier ce qu'elle a entendu la veille. Donc, voilà, la manière de
Et
travailler.
la
Mais c'est sûr que
chasse à
c'est
ça,
une forme qui prend vraiment des...
mais la chasse à ça,
Pardon?
ça me rappelle l'expression de George Orwell qui il appelait ça l'esprit de gramophone, c'est-à-dire les gens qui répètent des trucs qu'ils ont entendus, donc l'esprit gramophone, quoi. C'est une dernière question, c'est sur la musique. Je sais aussi que, enfin, dans la sociale, c'était vachement important, la musique. Est-ce que quelle place tu accordes à, je dirais, le fond sonore, enfin, la musique, dans un
Alors
documentaire?
moi, globalement, j'en mettrais peu.
Ouais.
On regarde ce qu'on voit d'une manière générale. Peut-être parce que j'ai pas une grosse culture musicale, j'en sais rien. Mais en tout cas, si je mets de la musique, et c'était vrai dans la fiction qu'on a fait l'an dernier aussi dans Reprise en main, c'est qu'elle est jouée à fond, quoi. C'est-à-dire que moi, les documentaires ou les fictions où il y a une espèce de soupe en permanence avec de la musique qui accompagne, qui force les sentiments, qui force les choses, qui t'emmène dans quelque chose. Pour moi, la musique, quand on l'utilise comme ça, c'est qu'il manque quelque chose dans les propos, c'est qu'il manque quelque chose dans le film et qu'on s'en sert comme béquille. Moi, je veux pas que ce soit la musique, soit une béquille. Je veux que ce soit quelque chose qui vive pleinement et qui nous emmène vers un moment particulier et qu'elle soit vraiment jouée et qu'elle joue pleinement son rôle. Donc voilà, j'utilise beaucoup comme ça. Là, c'est de la musique originale sur la sociale avec une jeune auteure-compositrice qui s'appelle Laurie Derouf. Et donc là, pour le coup, on enregistre vraiment sur le film, et c'est au quart de seconde près, quand elle nous propose des choses, on pose comme ça, puis finalement, on finit par enregistrer un auditorium, et là, c'est vraiment précis au quart de seconde, donc c'est très très agréable comme exercice. Mais en tout cas, moi, mettre de la musique pour mettre de la musique, c'est pas mon truc. Et c'est assez particulier, hein, tu vois, dans la ferme des Bertrand, il n'y en a quasiment pas, enfin très peu. Mais toi, il y a quand même des habitudes dans le monde du cinéma, sur Reprise en main, par exemple. Nos producteurs, nos distributeurs disaient, ah, non, mais il faut de la musique, il faut de la musique, au début, tu vois. Puis finalement, plus le montage avance, plus la musique, c'est plutôt les comédiens qui la mettent dans leur façon d'être. Et quand on met de la musique, c'est parce qu'ils sont dans un bar et qu'ils font la bringue et qu'on met la musique à fond. Ou alors, et quand il y a vraiment un moment qu'on a envie de magnifier, mais c'est pas un espèce de palliatif comme ça qui se déroule dessous. Mais si vous faites attention aujourd'hui au cinéma, il y a beaucoup beaucoup de musique et c'est que puis aussi quand on met de la musique, peut-être qu'on fait pas suffisamment confiance aux comédiens, pas suffisamment confiance aux intervenants lors des documentaires, alors que voilà, moi j'ai plutôt tendance à faire confiance aux
C'est
gens.
en voyant la ferme des Bertrand, je me suis dit, parce que je comparais avec la sociale, et je me dis, Bon, bah, parce que là, il y avait un aspect technique dans la sociale, enfin expertise. Donc, il fallait aussi, mais dans la ferme des Bertrands, c'était pas nécessaire parce que parce que en fait, ça redouble les affects qui sont montrés à l'écran, en fait, enfin la vie humaine, quoi. Donc, elle aurait été superfétatoire, si, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, ça, c'était pas la peine d'ajouter. Et donc, ça peut être une béquille quand on n'a pas réussi à capter des choses.
Exactement, mais c'est exactement ça. Mais c'est aussi des habitudes qu'on a dans nos métiers où systématiquement il faut de la musique. Mais bon, voilà, c'est pas obligatoire. Après, il y a des gens qui maîtrisent bien et qui font les choses bien. Nous, par exemple, ce qu'on fait avec François Ruffin, on utilise de la musique, mais on utilise beaucoup de la musique populaire, ou en tout cas très connotée, pour que ça relance, pour que ce soit en résonance, mais pas d'accompagnement musical comme ça. Et une fois de plus, quand on l'utilise pleinement, quoi. Voilà. Moi, je suis pas anti-musique, mais
Eh non,
voilà. Mais c'est vraiment des habitudes, hein, je vois, puisque je côtoie un peu le monde du cinéma, même si je suis toujours vu un peu de façon marginale, mais en tout cas, je vois le réflexe qui est là dans nos métiers, comme quoi systématiquement il faudrait de la musique partout, alors que bon, bof, ça va, quoi.
et juste une dernière question pour finir. Quand on s'est parlé au téléphone il y a quelques jours, tu m'as dit bientôt on va m'accuser de faire du cinéma ou quelque chose comme ça. Enfin, tu sais, documentaire. Et en fait, quelle séparation tu fais entre le documentaire et le cinéma? Parce que pour moi, tu es un cinéaste. Donc.
Oui, non, en fait, c'est juste que comme le film La Ferme des Bertrands est le film qui a le mieux marché, et puis en fait, il est assez universel, on va dire, et puis qu'il est certainement moins politique, en tout cas sur les propos et sur le. Et donc, du coup, le monde du cinéma, que ce soit les critiques, les choses comme ça, je vois bien, comme le film a été encensé, et moi, on a commencé à me considérer comme un cinéaste. C'est quand même mon 11e film qui sort au cinéma. Je pense que les autres ont aussi bien fonctionné et que, au niveau cinématographique, je suis pas sûr que La Ferme des Bertrands soit vraiment mieux, mais en tout cas, voilà. Donc, avant, dans le monde du cinéma et dans le monde politique, on m'a toujours traité de cinéaste militant. Et il y a beaucoup de gens qui, pour décrédibiliser mon travail de cinéaste, disaient il fait de la politique, il fait pas du cinéma. Alors que je pense que quand on regarde la sociale, les gens avaient les larmes aux yeux, ils ont ri, ils sont partis avec la niaque, en ayant appris plein de choses, et je pense qu'ils ont passé un moment de cinéma, quoi. Voilà. Mais c'est un petit jeu qui est là aussi pour décrédibiliser mon travail, et ça, c'est plutôt une bagarre qui a plus de l'ordre politique que de l'ordre cinématographique. Mais moi, ça me fait plutôt marrer. Je sais que les retours des spectateurs et la sociale est quand même, pour moi, un film marquant, avec Debout les femmes, dans le sens où ce sont des films qui ont amené quelque chose et qui ont changé quelque chose, sur la connaissance d'Ambroise Croizat, sur la connaissance de l'institution, et qui ont été diffusés. Je sais pas, ça a fait 200 000 spectateurs au cinéma, mais ça fait 8 ans qu'il est sorti. Toutes les semaines, tous les mois, il est diffusé. On l'a utilisé pour les caisses de grève. Donc, je sais pas combien de centaines de milliers de gens ont vu ce truc-là. Et là, tu avais l'impression de servir à quelque chose. Donc, voilà. Et tu as contribué aussi, toi, par ton regard
Et
d'expert,
j'en suis fier, j'en suis très fier.
Mais tu vois, c'est là quand tu vois qu'un film, il peut changer quelque chose, il peut en tout cas faire, avoir de l'influence au regard sur les gens, et que les gens, c'est pas qu'un tract, quoi. C'est un truc où les gens, ils ont été embarqués par les affects, les choses comme ça, et tu sens qu'ils vont avoir envie d'en parler autour d'eux. Et ben, c'est quand même chouette, quoi. Ça vaut tous les, ouais, ça vaut tous les Césars ou les Hubert dans le film.
Je confirme aux étudiants qui sont présents et qui vont regarder ton intervention que les gens sortaient, parce que la dernière scène est particulièrement émouvante, donc avec Alfred à l'ON3S à Saint-Étienne, voilà, il dit qu'il va bientôt mourir. Alors c'était une prophétie pas autoréalisatrice, enfin si, autoréalisatrice, mais en tout cas il était ça, et les gens pleuraient en sortant, quoi, voilà. Et c'était faire pleurer avec un sujet comme la Sécu, c'est quand même pas gagné, quoi. Mais voilà. Mais
Mais des fois, il y a des raisons de pleurer devant la méconnaissance
des
de la
fois, c'est des
Sécu, mais
raisons
enfin, c'est autre chose, c'est pas les mêmes larmes.
de pleurer. C'est ça. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Gilles.
Merci beaucoup, ma mère. Merci à toutes et à tous. J'espère que vos études se passeront bien, et puis à la prochaine dans une salle ou je sais pas, quelque part. Voilà, on aura
Ah, c'est
l'occasion de
ça.
se. Bonne
Allez,
journée, à
bonne
bientôt.
journée.
Salut.